8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. Comment les jeunes voient-ils leur avenir ? Comment se projeter dans le futur quand le présent est déjà bien anxiogène entre les guerres, les crises économiques et le dérèglement climatique ? Est-ce plus difficile d'avoir 20 ans aujourd'hui ? Peut-on parler de génération sacrifiée alors que c'est normalement l'âge du tout est possible, sachant bien sûr que la réalité n'est pas la même pour un ado de Kinshasa, d'Alger ou de Paris. On en parle avec vous bien sûr qui nous écoutez et nos invités. Bonjour Arthur Perrol.
Bonjour.
Vous êtes chorégraphe et co-réalisateur avec Pascal Catlan de la série documentaire Rêve avec un S à la fin, qui sort aujourd'hui même dans les cinémas français. Pas trop stressé, non ?
Ça va un petit peu, mais heureux surtout.
Heureux. Film réalisé en pleine crise pandémique, vous nous raconterez en France en 2020 et 2021, avec 17 adolescents de 14 ans. C'était dans un collège du Var en France. Bon, forcément, à ce moment-là, les rêves étaient confinés, masqués, empêchés.
Empêché, on va dire, il n'y avait pas beaucoup de projections pour eux, mais on voit aussi que la vie reste présente dans leurs paroles, leurs rêves
et leur corps.
Et leurs désirs et leur corps.
Parce que vous êtes chorégraphe.
C'est ça, ouais. Donc, il y a eu toute cette question-là aussi du corps qui se transforme à l'adolescence et comment aussi les rêves, la recherche d'identité, etc., fabriquent aussi les corps d'adultes et voilà.
Sachant qu'à cette époque-là, forcément, les corps étaient empêchés de faire la fête. Et ça jouait aussi beaucoup sur le moral.
Et on en parle aussi sur l'amour aussi.
Et forcément. Fabrice Rousselot, à vos côtés, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la rédaction The Conversation France. Et vous venez de publier une enquête exclusive auprès des jeunes Français de 18 à 25 ans. C'est intéressant parce que, pour le coup, au moment du premier confinement, ils avaient quasi l'âge de ceux qu'on retrouve dans le film. Vous nous direz dans cette enquête s'il y a un avant après Covid sur leur morale, mais a priori, ils vont plutôt bien.
Oui, c'est un peu la surprise de cette enquête, c'est qu'on s'attendait quand même, notamment nous parents, à avoir des enfants un peu anxieux, voilà, anxieux face à l'avenir. Eh bien, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire qu'il y a un vrai optimisme. 71% d'entre eux se disent très optimistes ou même plutôt optimistes par rapport à l'avenir et au futur. Et avec, on le verra, voilà, des causes, des nouvelles causes à défendre et des engagements qui se passent souvent au niveau personnel plutôt que collectif.
On parlera en détail de cette enquête. On retrouvera également en fin d'émission L'Afrique qui gagne de Rafiki Fariala. C'est un réalisateur centrafricain qui vient lui aussi de sortir un documentaire qui s'appelle Nous étudiants sur un groupe d'étudiants à Bangui, un portrait réalisé par Charlie Dupio. Puis bien sûr, vous qui nous écoutez, les jeunes auditeurs, même si je sais que c'est un petit peu compliqué, ils sont un petit peu en cours. Voilà, n'hésitez pas à nous raconter vos rêves et vos visions du futur. On attend vos témoignages au 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins
et de voisines.
8 milliards de voisins et la planète se parle.
8 milliards de voisins.
À quoi j'aurais envie de rêver ? Qu'est-ce que j'aurais envie de rêver, moi ?
Enfin, c'est compliqué de voilà, genre de vouloir se projeter et tout quand tu sais que ça va pas aller et que ce sera encore pire. Ben, t'essaies de, voilà, d'avoir de plus grandes ambitions. Voilà, des grands rêves.
Si j'étais née en 1980, par exemple, j'aurais pu avoir un bon avenir. J'aurais pu bien m'épanouir dans ma vie. Mais là, je sais que je pourrais pas.
On pourra jamais changer les choses sans... Ça sert à rien, quoi, de dire qu'on est l'avenir et tout. Moi, je pense qu'on pourra jamais changer les choses.
Les humains se tueront eux-mêmes à cause de leur création.
Comment je m'évade ? Bah, quand je fais des rêves, je m'évade.
Prends évader. Je dessine. Ben, je dessine sans humain ou je dessine...
J'ai envie d'être un petit grain de sable. Non, mais c'est vrai, avec tous mes amis, grain de sable. Ouais, j'ai envie d'être, voilà, bah, sur une île, grain de sable. Avec des petits pieds qui marchent sur moi.
Un extrait de la bande-annonce de votre film Rêve, Arthur Perrol. Bon, quand on écoute, c'est plutôt cauchemar, là, hein. À ce moment-là, hein, avec le boum-boum bien anxiogène,
oui, c'est ça.
Aussi.
Oui, c'est un peu cauchemar, mais c'est là sur la bande-annonce, c'est beaucoup le décor qu'on pose sur le premier épisode qui est sur la question de rêve. Donc, quand on y allait avec Pascal Catlan, ou avec qui j'ai co-réalisé la série, on s'est rendu compte, on y allait en novembre 2020.
Et ça semble loin.
C'est vrai que là, en le revoyant, on sent que ça y est, c'est une série d'époque presque. Et on était, on les connaissait déjà. Et en fait, ils avaient très envie de nous parler. Et on était assez estomaqués de voir comment ils étaient lucides et très déprimés et dans une incapacité de se projeter, dans une incapacité de. Bah, en fait, à ce moment-là, c'était une incapacité de trouver la vie face à l'incapacité de se rapprocher, incapacité de dire comment ça ira demain, avec le réchauffement climatique, etc.
Et c'est oui, aussi... le Covid a soulevé vraiment énormément d'angoisse. Hein,
Pour avoir vu le film, je trouvais de façon très, très intéressante qu'ils étaient un peu comme dans un temps suspendu. C'est-à-dire qu'il y avait cette capacité à se projeter, mais qui était vraiment très très loin derrière dans leur esprit. Et là, c'était l'instant présent qui faisait que ça pesait tellement sur leur avenir que il y avait beaucoup plus de questions que de réponses.
Ouais, c'est ça. Et puis il y en a une que Sarah qu'on va entendre après qui le dit.
Et qu'on retrouvera tout à l'heure au téléphone.
Ouais,
Sarah,
voilà, ouais. Qui dit pendant le confinement, elle avait que ça à faire d'être sur les réseaux sociaux et qu'elle s'est rendue compte aussi de toutes les informations, etc. Et moi, ce que je me suis beaucoup rendu compte, c'est qu'à 14 ans. À 14 ans aujourd'hui, en tout cas, on a beaucoup accès à l'information, beaucoup accès à des images, mais avec une émotion qui est assez encore enfant. Et déjà que nous, adultes, on ne sait pas trop comment gérer toutes ces informations-là, mais eux, on sentait qu'il y avait quelque chose qui était un peu asphyxiant. Et comment on trouve la vie là-dedans, comment on trouve le désir, comment on trouve la joie, qui est quand même un peu le moteur principal pour avancer.
Surtout à cet âge-là, 14 ans. D'ailleurs, dans votre étude, l'info-anxiogène, les jeunes que vous avez rencontrés entre 18 et 25 ans, ils ont un rapport assez ambivalent aussi par rapport aux infos, aux réseaux et à l'info-anxiogène
Tout à fait. C'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, ils se projettent bien. Par contre, leur rapport au monde, qui est vraiment à travers l'info et à travers cette nouvelle façon d'utiliser l'info. Les usages de l'info aujourd'hui sont évidemment pas les mêmes qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Et là, on a eu des réponses, nous, qui étaient très, très mitigées, très ambiguës, à la fois curiosité, à la fois, mais surtout inquiétude, fatigue. Et on se rend compte, en fait, ce qui les intéresse, finalement, c'est pas tellement la politique, c'est pas tellement l'économie, c'est plus la culture, c'est plus les choses qui sont plus proches d'eux. Et donc, il y a cette espèce de protection, un peu, de leur part, qui inondée par ce flux d'informations sur les réseaux sociaux. Alors, quelquefois, ils tombent dedans, ils se prennent dans cette espèce de spirale qui n'en finit pas. Mais ils essaient de sélectionner un peu plus tôt les choses sur lesquelles il y a une réflexion un peu plus positive et il y a une réflexion sur l'avenir et comment on se projette. Ça, c'est intéressant.
Ouais. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce film Rêve, comment on se projette, ses amours, son corps, son futur, c'est que voilà, il y a plusieurs garçons, filles, ils sont une quinzaine, ouais. C'est ça. Ça revient souvent, c'est la notion de se comparer avec la génération d'avant, a priori la génération des parents, en se disant nous quand même on est une génération moins libre.
Oui, une génération moins libre.
Au-delà du Covid.
Ce qui est assez intéressant, c'est par exemple, moi j'ai été très étonné de voir leur rapport justement aux réseaux sociaux, etc. Ils aimeraient bien voir ce que c'est de vivre sans. Ils le voient comme un empêchement. Il y en a une, Louane, qui dit moi quand je sors, on peut m'appeler tout le temps, savoir ce que je fais, alors que les parents, quand ils sortaient, on ne pouvait pas savoir, etc.
Ma mère me trace.
Voilà, c'est ça. Oui, effectivement, il y a quelque chose comme ça de compliqué pour eux à gérer et ils cherchent la jeunesse là-dedans, ils se comparent beaucoup effectivement, puis après là c'est au collège, donc c'est aussi le regard de l'autre qui est beaucoup présent. C'est
14 ans,
c'est
l'âge difficile, faut le rappeler.
C'est compliqué
même,
et on voyait même nous, on était avec eux de novembre à juillet, et vraiment à la fois on les a vus devenir des adultes, un peu, et aussi de voir, le printemps, c'est vraiment la saison des amours.
L'éclosion,
ils sont beaucoup plus heureux, etc. Il y a l'appel des vacances, et en même temps, ils allaient rentrer au lycée. Pour eux, c'était vraiment devenir adulte, etc. Et en même temps, certains et certaines qui voulaient rester enfants comme une protection presque, comme quelque chose de... Non, mais l'enfance...
Plutôt chez les garçons, non, parce que souvent, on dit à 14 ans, c'est jeune, mais...
C'est vrai qu'en tout cas,
dans la
série, c'est beaucoup les garçons qui ont envie de rester enfants, et on sent que c'est une protection, on sent que c'est confortable pour eux, et que d'être adulte, bah, ils le disent, à part devoir réussir, gagner de l'argent et avoir des responsabilités, ils voient pas vraiment l'intérêt.
Mais... dans l'enquête de devenir adulte, c'est quoi être adulte? C'est une question que vous posez aussi.
Exactement. Et alors, ce qui est intéressant déjà, c'est que 86% d'entre eux, les 18-25 ans, se disent adultes.
Donc déjà, oui, mais ils ont quel âge ?
Entre 18 et 25 oui. ans, donc c'est un peu la continuité, j'allais dire, du film. Hein. Et donc ça, on a été un peu surpris. Et après, là où on a été encore un peu plus surpris, c'est que justement, c'est pas tellement par l'âge. C'est-à-dire qu'ils disent pas, c'est pas une question d'âge, c'est pas parce que j'ai 21 ans, c'est parce que j'ai 18 ou 19, c'est pas ça. Mais on est face à une certaine maturité où ils disent, en fait, être adulte, c'est avoir de l'autonomie financière, c'est avoir un boulot, c'est savoir ce qu'on veut, être bien installé, avoir cette espèce de confort-là, et être dans un contexte qui nous permet justement de mieux réfléchir, mieux nous projeter. Et ça, ça a été aussi un petit peu une surprise, dans le sens où on dit toujours, voilà, on a cette image, on la voit quelquefois véhiculée dans les médias, de ces jeunes qui sont... intéressés par rien, qui finalement ils sont dans une quête de sens, ils se fichent de savoir et en fait non, ils ont les pieds sur terre, mais encore une fois dans leur cercle un peu privé, dans leur sphère, et ils interviennent sur ce dont ils ont l'impression là où ils vont faire une différence. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est pas la grande révolution de tous les jours. Par contre, c'est pas petit pas, on va arriver à faire une différence. Et ça, c'est super intéressant. Et je l'ai perçu aussi dans le film où, malgré ce contexte Covid qui est quand même très pesant hein, pour des jeunes comme ça, il y a cette projection. Et sur le mode, on va y arriver petit à petit, mais on va y arriver.
Pas tous, hein. On en écoutera d'ailleurs quelques témoignages, enfin en tout cas à ce moment-là, et puis pour voir, voilà, 3 ans après, un petit peu en quoi ils ont révisé leur vision du futur. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur RFI, après la chanteuse colombienne Carol G, c'est Bichotag, à tout de suite.
Cada canción que tiro es un éxito que rompe. El noviecito tuyo ayer se me puso a la orden. Me dijo que estoy rica, que no hay compe. Por el 305 vacilando en el Ferrari. Nos bajamos el IV y activamos el party. Estamos legales, no apaguen la mari, no. Estamos legales, no apaguen la mari. Bicho está de por los aires en el G. El culo es AM, de fábrica el piquete. Va llegando. No me fío cuánto es, ni sé cuánto me gasté. Solo sé que coro, ne. En París como el PC, hey. Los diamantes de Leo C, ven. Calladita pa' que tose, de, tose, de, tose, de.
Sabes que soy la para, la viecito me lo bala. Me dice que no lo mire, así que eso se le dispara. Me pidió que me soltara, que el panty me lo quitara.
Dans 8 milliards de voisins et de voisines, comment les jeunes rêvent-ils leur avenir? Comment se projeter dans un futur anxiogène? Est-ce que c'est plus difficile d'avoir 15 ou 20 ans aujourd'hui? On en parle et on attend bien sûr vos témoignages au 33 7 64 45 51 41, toujours en compagnie de Fabrice Rousselot, directeur de la rédaction The Conversation France, pour évoquer cette enquête auprès des jeunes de 18 à 25 ans. Arthur Perrol, chorégraphe, co-réalisateur de la série documentaire Rêve, qui sort en salle aujourd'hui en France. Et parmi les jeunes qui se racontent dans votre film Face Caméra, il y a Sarah qui est avec nous. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Ah, péchu comme dans le film. Hein. Sarah, vous avez 17 ans, vous êtes actuellement en terminale.
Oui.
Alors vous aviez 13 ans vous, hein, au moment du tournage, vous étiez en 3e. Sarah, je vous propose de vous réécouter vous. Comment vous voyez le futur en plein confinement? C'était il y a 3 ans.
Je pense pas que... dans 20 ans, le monde, il sera pareil que maintenant. Genre, je pense que ça va être super compliqué par rapport ben, justement à la pollution et tout. Moi, je suis sûre qu'il ne nous reste pas 100 ans à vivre, là. Je suis sûre que dans 100 ans, la planète, elle n'existe plus. Je ne sais pas pourquoi, mais quand on regarde ben, justement sur les réseaux sociaux, la pollution, mais ça me choque. Tout ça. Et moi, je suis sûre que ben, on ne pourra pas avoir un avenir comme les gens... Si j'étais née en 1980, par exemple, j'aurais pu avoir un bon avenir. J'aurais pu bien m'épanouir dans ma vie. Mais là, je sais que je ne pourrais pas. Parce que ben, on va être... y a beaucoup de choses qui nous en empêchent. Par exemple, là, le Covid, je suis sûre que dans 10 ans, on en entendra encore parler. Qu'il partira jamais complètement. Moi, par exemple, mon rêve, là, vraiment mon rêve, c'est de partir un an aux États-Unis en étudiant d'échange. Donc, faire une année de lycée aux États-Unis, mon année de première. Mais par rapport à, avec le Covid et tout, je sais que ça va pas être possible. Hein. Du coup, ça me décourage. J'ai plus envie de rien.
Je n'ai plus envie de rien. Sarah, qu'est-ce que ça vous fait de vous réécouter comme ça avec du recul 3 ans après ?
Bah, en fait, je pense qu'à ce moment-là, je me pensais grande et je pensais tout connaître. Sauf que maintenant, c'est une toute autre vision parce que bon, je suis en terminale et maintenant, on est un peu forcé d'avoir une vision de l'avenir qui est... comment dire ? En fait, on doit avoir foi à l'avenir parce que nos décisions se prennent maintenant. Donc, maintenant, par rapport à avant, je suis beaucoup plus motivée et je suis sûre de mes choix. Et donc, j'ai foi en l'avenir.
J'ai foi en l'avenir. Mais pourquoi vous dites « j'avais l'impression d'être plus grande » ? Vous aviez le droit de dire ce que vous pensiez à 14 ans ?
Oui, exactement. Mais en fait, maintenant, ma vision a tellement changé. Et
qu'est-ce qui a changé ? Alors, dites-moi, quand vous dites, voilà, là, on vous entend, j'ai plus envie de rien, le monde c'est foutu dans 20 ans, qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que c'est aussi la sortie du déconfinement aussi qui vous a
oui,
fait
c'est
changer
ça. Oui. C'est ça, l'histoire du Covid, je disais qu'on en entendrait encore parler, mais là, enfin, il s'est effacé. Ensuite, le lycée, c'est autre chose, c'est plus pareil que le collège. Nos profs... Enfin, on est toujours motivé. Dans tous les cas, on est obligé parce que sinon, notre avenir tombe à l'eau, quoi. Donc, en fait, maintenant, je pense plus du tout pareil qu'avant.
Oui, c'est ça. Alors, je crois savoir, Arthur Perrol, à chaque fois, vous avez projeté ce film en famille, avec les jeunes, avec leurs amis dans différents festivals. Vos parents, ils l'ont vu, hein, forcément, ce documentaire.
Oui.
Comment ils ont réagi ? Est-ce qu'ils ont été étonnés de vous entendre parler comme ça ? Est-ce que ça provoquait des discussions entre vous ?
Oui, totalement. Parce que, en fait, à ce moment-là, surtout en troisième, on est dans une période... On est en plein dans la puberté, on se découvre. Et en fait, il y a des sujets sur lesquels on n'ose pas trop parler avec nos parents. Et le truc, c'est que moi, face caméra, j'avais aucune gêne. Je disais tout ce que je pensais et je me livrais. Donc, c'est sûr que quand ils ont vu ça, ils ont vu une facette de moi qu'ils ne connaissaient pas.
Ouais. Face caméra, de toute façon, les jeunes, Arthur Perrol, ils sont assez... On peut dire que ça peut être compliqué, mais ils ont un rapport à l'image et la caméra qui n'est peut-être pas la nôtre. Ils sont assez décomplexés. En même temps, vous avez
oui,
une tête de chorégraphe avec des boucles d'oreilles. Vous avez l'air plutôt sympa.
Merci pour lui.
Non, mais ça
me va très bien.
Mais non, il est plutôt sympa.
Non, mais justement, c'est qu'aussi, quand on a commencé à allumer la caméra, ça faisait déjà un an qu'on travaillait ensemble.
Ouais.
Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait aussi... en fait, le processus créatif, le processus chorégraphique amène aussi une sorte de relation et de confiance. Et c'est vrai qu'ils étaient complètement à l'aise et complètement inhibés. C'était entre la psychanalyse, entre la tribune. Aussi, à un moment, on a senti qu'ils se sont rendus compte « Ah ouais, en fait, c'est un moment où je vais pouvoir dire ce que je pense et on va pouvoir entendre ce que pensent les jeunes. » Et ils l'ont pris vraiment à bras-le-corps. Et voilà. Et c'est vrai, quand on l'a présenté aux parents, je rejoins ce que dit Sarah. Bonjour Sarah, d'ailleurs.
Ah, il est content de vous avoir. Il vous a pas vu depuis 3 ans.
Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que les parents, et il y avait les grands-parents aussi, a amené une facette qui était moins enfant-parents. Nous aussi, on est arrivés, on était des adultes aussi, où on leur posait des questions sans leur dire s'ils avaient raison ou tort, et en les écoutant et en se taisant. Ce qui était quand même, malgré tout, quand on est à l'école, quand on est en troisième, etc., c'est... Nous, on n'était pas des adultes qui étions là pour une sorte d'éducation ou quoi. On était des adultes qui venaient récolter. Et je pense que ça a été un espace assez chouette pour eux. Et en plus, ils l'ont investi. Ça, c'était super.
Ce sentiment d'être enfin écouté aussi, vous l'avez ressenti, vous, dans l'enquête que vous avez publiée auprès des jeunes que vous avez rencontrés, qui ont maintenant l'âge de Sarah, ou un peu plus hein.
Oui, tout à fait. Et moi, je trouve intéressant, et bonjour Sarah, c'est justement ce qu'elle nous dit. C'est-à-dire qu'elle nous dit qu'entre 14 ans et 3 ans plus tard, elle a évolué.
Ouais.
Elle est plus motivée, elle a envie de faire des choses. C'est exactement ce qu'on retrouve dans notre enquête. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté de s'engager sur des causes. Il y a l'environnement, mais il y a aussi le gaspillage alimentaire. Il y a les conditions faites aux femmes, les choses comme ça. Et donc, des choses très, très directes. Et on a un peu l'impression que, justement, en fait, on avance par rapport aux causes sur lesquels on peut vraiment s'engager au quotidien, sur lesquels on a une action citoyenne, on peut agir. Et je voulais poser, si je peux me permettre, cette question à Sarah. Quand elle dit qu'elle est plus motivée, est-ce que justement c'est dans cette espèce de possibilité de pouvoir agir au quotidien sur certaines causes et de pouvoir s'engager elle personnellement sur des choses plutôt que de vouloir une grande révolution ou de savoir ce qui va se passer dans 50 ans.
Sarah,
est-ce que c'est ça du coup cet engagement?
Oui, exactement, c'est ça. C'est que maintenant on se sent un peu adulte l'année prochaine, j'ai 18 ans. Donc en fait, on se sent plus écouté, on se sent plus utile. Donc forcément, oui, ça joue.
Vous voulez être avocate, c'est ça, Sarah? Non.
Au moment du film, oui.
Ah,
sauf
et là
que, sauf que maintenant, non.
Ah, vous voulez, alors du coup, vous avez envie de vous orienter vers quel
alors,
métier?
Alors, l'année prochaine, je vais partir à Madrid, faire un cursus en anglais, donc c'est des études de marketing. Et ensuite, le métier, bon, je ne sais pas encore, mais on verra comment ça se passe.
Voilà, mais envie d'ailleurs. Détermination, Sarah, dit Arthur Perrol. Merci beaucoup d'avoir pris un petit peu de temps avec nous, Sarah, parce que j'imagine que vous avez certainement des cours. Et belle suite à vous. Belle suite, au revoir.
Au revoir.
Un autre témoignage qu'on retrouve dans votre film, c'est Louise qui est également avec nous en ligne. Bonjour Louise.
Bonjour Laurent.
Bonjour. Alors Louise, vous aussi, vous avez 17 ans, vous êtes en terminale. Vous connaissez Sarah ou pas d'ailleurs?
Oui, oui, on s'est fréquenté au collège et on est toujours dans le même lycée.
D'accord. Alors pareil, même règle du jeu Louise. On va vous réécouter. C'était il y a 3 ans. Voilà comment vous voyez votre propre génération.
On est bêtes. On pense pas à l'avenir. Tout le monde nous dit, les adultes, on est l'avenir, mais moi je pense qu'on fera rien. Ça changera rien. Ça changera jamais d'ailleurs. On est bêtes.
Et pourquoi les générations précédentes
vous... Ils ont fait pareil. C'est eux qui ont empiré. Et nous, on a un peu les... Enfin, ils nous disent de faire ça, quoi, alors qu'ils l'ont pas fait avant. Et il fallait penser avant. Mais après, on a tout construit d'un coup, on pensait jamais aux conséquences. Donc, nous, on n'y peut rien, mais on est bêtes quand même. Donc,
Et pourquoi tu penses que vous êtes bêtes?
On pourra jamais changer les choses, ça sert à rien, quoi, de dire qu'on est l'avenir et tout. Moi, je pense qu'on pourra jamais changer les choses. Faudrait un déclic, que tout le monde ait un déclic et qu'on avance maintenant pour peut-être penser à l'avenir plus tard, mais ça sera jamais. Tout le monde a l'argent, construire, pollution. Jamais on fait des petites actions, enfin il y en a quelques-uns quand même qui font des actions pour le recyclage, etc. Mais il faudrait que tout le monde s'y mette, voilà quoi.
On est bête, jamais on ne pourra jamais changer les choses, la faute aussi un petit peu aux adultes. Comment vous réécoutez vos mots à vous, Louise, hein? Vous étiez, comment dirais-je?
Remontée,
précise Arthur Perrol.
Bah, quand je me réécoute, ça fait vraiment bizarre et je me dis que de penser comme ça à cet âge-là, c'est triste.
Bah non, pourquoi?
Mais, je me dis que c'est triste parce que on pense à l'avenir, etc. Et que en tant que jeune, c'est compliqué d'entendre ça. Et donc du coup, je pense que j'ai quand même changé, évolué. Et j'ai quand même j'ai ressorti un petit espoir au fond de moi et je me dis qu'on pourra quand même changer les choses parce que on pense à l'avenir quand même.
Un petit espoir seulement, un petit espoir.
Oui, un petit espoir.
C'est-à-dire, je vous sens quand même encore un petit peu défaitiste, non? Un petit espoir.
Oui. Oui. Je suis encore un petit peu pessimiste, mais enfin, vu la situation dans laquelle se trouve le monde, la planète, etc., c'est difficile de trouver du positif. Mais je pense qu'on pourra quand même changer les choses si on fait tous un petit effort au fond de soi. C'est pas forcément compliqué, mais ça va être long. Mais je pense qu'on pourra quand même changer les choses.
Ouais, c'est le collectif à chaque fois, hein. Vous revenez sur la notion de collectif. Vous vouliez peut-être poser une question, Fabrice Rousselot, à Louise qui nous écoute.
Oui, moi ce qui m'a interpellé, c'est cette phrase, on est bête. Et en fait, on est bête, je l'aperçois plutôt par... en fait, on s'est fait piéger, on est piégé, on est coincé, quoi. Et c'est pas tout à fait être bête, c'est simplement être dans une situation où finalement, on n'a pas beaucoup d'espoir pour justement changer les choses. Et du coup, vous disiez, Louise, voilà, j'ai un peu évolué, j'ai un peu changé. Est-ce que vous faites dans votre quotidien justement des choses, ou est-ce que vous faites avec des amis des choses qui vous permettent d'avoir quelque part un certain optimisme, en tout cas un peu plus d'optimisme, parce que vous étiez très pessimiste à l'époque. Est-ce que vous arrivez à faire ça quand même dans votre quotidien?
Des petits pas concrets.
Oui, ben, je prends le temps de parfois réfléchir au futur, à penser, par exemple avec mes proches, je réfléchis à l'avenir, etc. J'essaye aussi de faire des petites actions de mon côté, même si ça a un impact très faible sur le monde, etc. Mais j'essaye.
Vous voulez être architecte dans la transition, vous, c'est ça?
Tout à fait.
Louise?
Ouais. Ben, j'ai choisi ce métier exactement pour pouvoir changer les choses. Je pense
comme
que
quoi
c'est un métier totalement d'avenir. Et forcément, les maisons de demain, etc., quand on voit aujourd'hui l'impact des matériaux, de la construction, etc., moi, je veux plus être axée sur la rénovation, etc., parce que forcément, ça va être... vu toutes les constructions, il faut forcément faire quelque chose et...
Vrai défi. Arthur Perrol, il vous écoute et je pense qu'il est content de réentendre
oui,
votre
bonjour,
voix.
Louise. Non, mais je voulais rebondir sur qu'elle dise que c'était triste de dire on est bête, enfin, toute cette séquence qu'on a entendue. Moi, je me souviens à ce moment-là où je l'ai entendue, j'ai trouvé ça brillant de remettre les responsabilités à leur niveau, c'est-à-dire aussi ces ados où on leur dit c'est vous l'avenir, mais est-ce que vous allez y arriver? Et en plus on leur dit
c'est une pression.
C'est une pression et en plus on leur dit mais en même temps vous êtes des fétiches, mais en même temps vous êtes sur les réseaux. Enfin, en fait, ils récoltent aussi tout ce qu'on a fait. Et ce que je trouve, ce que disait Louise très justement, c'est voilà, ils récoltent ça et en plus on leur dit faites mieux que nous on savait pas, etc., etc.
C'est
et
vrai.
En fait, il a fallu ce que j'entends aussi là, c'est qu'au fur et à mesure ils ont réussi à trouver un chemin, comme vous disiez, plus personnel, pour se dire, en fait, débrouillez-vous, on va pas mettre des pansements, vous réparer, on va fabriquer notre vie comme on l'entend, et on va avancer, et ça, ces petites choses vont fabriquer un monde sûrement meilleur. Mais je trouvais ça assez intéressant, en fait.
Il y a un autre élément, nous, qui est dans notre enquête, et qui nous a beaucoup marqué, parce que justement, par rapport à cette réflexion de un peu qu'est-ce qu'on peut faire, c'est le problème de la politique au sens large et du fait qu'en fait les jeunes ne se reconnaissent pas du tout dans la politique, mais pas dans la politique politicaire, dans la politique comme un outil pour changer un peu les choses et pour justement faire avancer les choses. Et dans l'étude, on a cette espèce d'apparente contradiction, et peut-être que je vais poser la question à Louise, en tout cas je serais ravi de lui poser, entre le fait que si on demande aux jeunes qu'est-ce qui est une preuve d'engagement, eh bien, appartenir ou s'inscrire à un parti politique, s'inscrire à un syndicat,
c'est
se mobiliser.
C'est la politique à l'ancienne, à la
voilà.
Papa
Non, pour eux, ce n'est pas des preuves d'engagement. Vraiment pas du tout. Par contre, voter, ça reste une preuve d'engagement.
Et pourtant, on n'a jamais parlé autant d'acceptisme.
Alors, exactement.
Des jeunes.
Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, en tout cas, c'est ce qu'on en a déduit, c'est que la représentation politique aujourd'hui est tellement mauvaise. Les jeunes ne se retrouvent dans rien, dans la parole, dans aucune parole politique, pas dans les partis, etc. Que du coup, on constate ce qu'on constate, c'est-à-dire le faible taux de participation, etc., et le peu d'implication. Par contre, en théorie, si dans un idéal quasi parfait, on avait des groupes, des associations, des partis qui pourraient nous représenter et qui pourraient faire avancer les causes auxquelles on croit, à ce moment-là, le vote devient un mode d'engagement. Et ça, j'aimerais bien poser la question
oui,
à Louise.
Oui, Louise, déjà, le vote, voter ou même s'engager dans un parti politique, est-ce que pour changer le monde, se projeter autrement, vous y croyez ou pas du tout?
Je pense que voter, c'est une bonne chose pour la bonne personne qui nous représente, mais je pense que pour avoir un vrai impact, c'est pas par le biais d'un homme politique qui parle.
C'est... Exactement ça.
C'est voilà, par qui alors que... C'est par qui alors? Vous avez 17 ans, de toute façon, vous voterez l'année prochaine, pour les européennes.
Ouais.
Vous pensez que vous voterez d'ailleurs?
Je ne sais pas.
Ouais, donc
peut-être pas pour les européennes, je ne sais pas encore.
Ouais.
Je n'y réfléchis pas.
Alors, il y a une autre séquence, parce qu'on ne parlait pas que de futur, de boulot, d'études, de Covid. De Covid, si, c'était toujours en toile de fond dans ce film Rêve. Autre séquence plus intime. Comment ça va, les amours? Voilà ce que vous répondiez, Louise, il y a 3 ans.
Pour l'instant, j'y pense pas. Enfin, je m'en fous un peu. Parce qu'il y a trop d'histoires autour de ça et tout, donc moi, j'y pense pas. Je m'en fous. Après, il y a des gars que je trouve beaux, mais c'est pas... Voilà. En tout cas, ici, il n'y a pas de coup de foudre. Hein. Voilà.
Et où est-ce qu'il y a des coups de foudre?
Pour l'instant, pour moi, nulle part. Hein.
Et ça te va?
Ouais. Mais après, je me dis, plus tard, peut-être, ok, mais là, on a d'autres choses à gérer que ça, quoi. Ça rajoute des histoires. Et en plus, ça change les notes, hein, des fois. On pense qu'à ça et on oublie le collège, etc. Enfin, ça nous fait passer à autre chose, mais c'est pas forcément bien.
Là, aujourd'hui, les choses les plus importantes pour toi, c'est les notes.
Ouais. Enfin, les notes. De réussir, quoi. Parce que ça stresse, enfin... Si tu réussis pas ça, tu pourras jamais réussir ta vie.
Les notes, réussir, ça stresse. Vous mettiez une grosse pression hein, sur la réussite scolaire. C'est toujours le cas ou pas aujourd'hui, Louise?
C'est toujours le cas. Le stress prend toujours le dessus sur les notes.
Ouais, et pour vous, c'est la clé de la réussite, quoi.
Je pense.
Je ne vais pas vous demander comment vont les amours aujourd'hui.
Ça n'a pas changé. Hein. Et toujours pas le coup de foudre.
Toujours pas le coup de foudre. Oh, bon, en même temps, vous êtes jeune, hein. Ça peut prendre son temps. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage et merci de nous avoir appelé, Louise. Bon boulot, puis faut déstresser aussi un petit peu, hein, pas se mettre trop la pression non plus. Hein. Hein. À bientôt.
Merci
à vous.
Au revoir.
Au revoir. Allez, on a un nouvel appel d'un auditeur. Il n'est pas dans votre film, là, pour le coup, Rêve. C'est Auguste qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Auguste.
Bonjour Laurence.
Merci de nous appeler, vous avez 24 ans, vous avez une licence de psycho et vous êtes en ce moment aussi en cours de licence de sciences du langage, hein, c'est ça?
C'est exactement ça.
Alors, j'ai cru comprendre vous, je ne sais pas si vous avez entendu le témoignage de nos précédentes jeunes étudiantes françaises. Alors vous, vous
êtes... Oui, j'ai écouté.
Alors, comment vous situez-vous? Optimiste, m'a-t-on dit?
Très optimiste par rapport au futur. C'est vrai qu'on n'est pas dans les mêmes environnements que les demoiselles qui ont eu à parler jusqu'ici.
Bien sûr.
On a été touché par le Covid, mais bon, ça m'a permis de rester à la maison avec mes parents, ce que je n'avais pas la possibilité de faire quand j'allais à l'université régulièrement. Ce n'était pas une mauvaise chose en soi. Après, l'environnement, c'est une cause qui devrait toucher tout le monde, mais ici, ce n'est pas tellement ça, parce que les jeunes sont beaucoup plus impliqués dans la recherche du travail. Ce n'est pas un stress qui nous affecte pour le moment, même si je suis impliqué dans la défense de l'environnement. Moi, je veux être journaliste.
Bien, beau métier.
Merci beaucoup. Journaliste indépendant et je fais tout ce qu'il y a à faire pour l'atteindre et jusqu'à preuve du contraire, je crois que mon avenir est radieux, je le crois et je vais tout faire pour que ce soit le cas.
Ouais. Et pour vous, le journalisme indépendant, en tout cas, ce serait quoi? C'est une autre forme d'engagement aussi pour vous?
Oui, exactement. Exactement ça, parce que à mon niveau, je crois que ma façon de pouvoir contribuer à l'amélioration des conditions de vie aussi bien de ma famille, de mes amis, de moi-même ou que de ma société... C'est donner l'information la plus juste aux gens pour qu'ils puissent faire les meilleurs choix. Et pour moi, la meilleure façon de le faire, c'est d'être journaliste indépendant.
Ouais. Alors là, on parlait de maturité. Bon, vous avez 24 ans. Je peux vous dire que nos deux invités vous écoutent avec grande admiration. Auguste, on a un journaliste en plateau, Fabrice Rousselot. Comment vous écoutez ce témoignage d'Auguste?
Non, alors, moi, ça me fait penser à quelqu'un que j'avais rencontré il y a quelques années au Sénégal. Et qui commençait sa carrière de journaliste indépendant, justement. Et je m'en souviendrai toujours parce que, voilà, c'était une conversation comme ça, à bâton rompu. Et il expliquait un peu tout ça. Il expliquait qu'en fait, parce qu'on est dans un environnement qui est compliqué, parce qu'il y a la désinformation, parce que les médias aujourd'hui sont dirigés par des gens qui ne sont pas toujours bien intentionnés, etc., 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 lui, il voulait être au plus proche de l'information et livrer aux jeunes, et vraiment aux autres jeunes, l'information brute pour qu'on puisse commencer à réfléchir vraiment sérieusement. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a tous commencé un métier de journaliste avec cette vision peut-être un petit peu comme ça, d'utopie, mais en tout cas, voilà, on va partir, on va raconter le monde. C'est devenu, honnêtement, c'est plus compliqué d'être journaliste aujourd'hui que ça l'était quand j'ai commencé il y a 30 ans. Hein, parce que tout simplement... ce contexte comme ça de fake news, de manipulation. Mais je trouve que là encore une fois, s'impliquer personnellement, faire de sa carrière, d'une certaine manière, un motif à la fois d'engagement et d'ouverture sur le monde, là, bravo, je dis bravo, parce que surtout dans un environnement qui il est vrai, est un peu différent de celui de la France, de l'Hexagone, etc. Et était dans un environnement qui, a priori, est plus compliqué.
Bien sûr.
Donc là, moi, j'applaudis.
On vous applaudit des 12 mains. Ouais. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose, Arthur Perrol?
Ce que je trouve qu'on entend, que ce soit chez Louise et Sarah, et là, avec Auguste, c'est ce que moi, je perçois dans cette jeunesse-là, c'est le soin de la relation à l'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, l'engagement, il n'est peut-être pas sur les personnes politiques, sur faire de la politique en tant que telle, mais par contre, de prendre soin de l'autre. Moi, je voyais dans la cour de récré, c'était aussi ça, prendre soin, respecter, aimer, etc. Et on sent que c'est à petite échelle, mais en fait, si tout le monde le fait à petite échelle, il y a quelque chose, effectivement, de très optimiste et que je trouve qui caractérise vraiment cette jeunesse et qui, je pense que ça peut vraiment faire des belles choses et des folies, quoi.
Optimiste et des folies, optimiste et altruiste, vous vous retrouvez dans ces mots-là, vous, en tant que jeune étudiant, Auguste?
Oui, beaucoup. Et l'un de mes leitmotifs, c'est l'amour.
À l'amour, vous avez raison.
Voilà,
ah bah oui, quand même.
C'est ça qui va sauver.
Donc, je crois qu'on en a énormément besoin aujourd'hui, avec tout cet environnement anxiogène, où on devient de plus en plus égoïste, beaucoup de personnes cherchent les intérêts. On devrait penser aux autres. Et aux autres, c'est aussi bien autrui que les générations qui viennent après. Qu'est-ce qu'on va laisser?
Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va laisser? Vous dites ça, vous, alors que vous n'avez que 25 ans, 24 ans. Hein, c'est plutôt à nous. Hein.
Et moi, je me permets d'ajouter ça, parce que alors, le don à l'autre, à la personne, le don de son temps, ça fait partie des preuves d'engagement dans notre enquête, beaucoup plus qu'encore une fois que d'aller manifester. Ça, c'est super intéressant. De donner de son temps, de donner de sa personne pour aller vers l'autre, ça fait partie des premières causes d'engagement.
Je crois que c'est ça la vraie révolution entre l'ancienne génération et maintenant.
C'est ça. Bon, vive l'amour avec un grand A, Auguste. Amour, grand A comme Auguste, en fait. voilà. Merci beaucoup pour votre belle humeur et votre pêche. Ça fait du bien, hein, vraiment. Belle journée du côté d'Yaoundé. Merci,
Auguste.
Belle journée
à vous également.
Merci. Allez, après le Cameroun, on va parler des rêves de jeunes, mais cette fois-ci en Centrafrique.
8 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
Je vous propose d'écouter L'Afrique qui gagne de Rafi Fariala. C'est un réalisateur centrafricain qui vient de sortir le documentaire Nous étudiants sur un groupe d'étudiants à Bangui. Vous allez entendre leur galère mais aussi leur détermination. C'est un portrait réalisé par Charlie Dupiot et ça commence par une chanson.
On dit souvent que la jeunesse est l'avenir du pays au fait. Ces vieux nous ont menti. Quand on parle de vieux, c'est ces anciens qui sont aux affaires. Même ceux qui sont déjà à l'âge de la retraite, ils ne veulent pas laisser la place à la jeunesse parce que cette jeunesse revendique aussi sa place.
Alors cette chanson, on l'entend au début de votre documentaire, Rafiki Fariala, dans lequel vous donnez la parole justement aux jeunes à Bangui. Alors qui sont ces personnages, ces étudiants qu'on suit dans votre documentaire?
On suit Nestor, Aaron et Benjamin, qui sont mes amis en faculté des sciences économiques et de gestion. J'ai commencé à tourner en 2019. Pendant 3 ans, je les ai suivis en première année, deuxième année, troisième année. Je me souviens qu'en première année, pendant les examens, j'écrivais très vite et je déposais mon stylo, je prenais ma caméra pour les filmer, comme vous le voyez dans l'image.
Tous les pays qui sont aujourd'hui émergents peuvent devenir des pays avancés.
La RCA en fait partie. Pour changer de position, madame. Qu'est-ce qu'il nous reste?
Nous, en tant que Centrafricains, si on a cette volonté, s'il y a un bon leadership, s'il y a une acceptation du développement ou de la croissance, notre pays, d'ici 30 ans, sera aussi un pays émergent, bien d'ici 20 ans.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de tourner la caméra vers vos camarades, vers des étudiants?
Quand j'étais au lycée, je passais devant l'université, je voyais la beauté du bâtiment. Pour moi, c'était un paradis terrestre. Mais une fois arrivé à l'université, je commençais à voir des réalités où les étudiants étaient plus de 1000 dans une même classe. Les professeurs étaient quasi absents parce qu'ils ne sont pas très bien payés eux aussi. Et ils vont enseigner dans les universités privées où ils sont mieux payés. À l'intérieur du campus, quand on rentre dans les chambres, on voit des petits lits d'une place, mais où des fois, on va voir ces deux étudiants qui dorment dessus. n'y avait pas l'électricité, il n'y a pas l'eau. Quand il pleut, il y a de l'eau qui coule partout dans les chambres. Malgré tout, toute cette réalité, toutes ces difficultés que rencontrent ces étudiants, le côté positif, ils sont unis dans leur amitié, ils se battent, ils vendent de la farine de manioc au campus, ils font le jardin potager, ils vendent des savons, des cahiers au marché pour se payer les supports pour pouvoir étudier. Donc, quand je suis arrivé à l'université, j'ai rencontré toutes ces réalités. Je me suis dit, mais il y a une histoire. Pourquoi pas parler de nous ?
Alors justement, on va écouter un autre extrait de votre documentaire.
J'étais victime d'un professeur qui me demandait de l'argent.
Et quand tu as refusé ?
Là, quand j'ai refusé,
il t'a tué.
J'ai failli rester en première année.
Oh, laisse.
J'ai failli. Si je ne m'étais pas fié à des relations, si je n'avais pas mis de pression à la maison, j'allais être en première année.
Ça, ça arrive aussi que des professeurs demandent de l'argent ?
Oui, c'est l'action de la corruption. Ce que dit Aaron dans cette scène, par exemple, ce n'est pas juste que son discours, c'est le discours de bon nombre d'étudiants qui subissent la réalité, cette triste réalité où ils sont en classe, ils étudient, ils composent et à la délibération, les notes disparaissent. On te dit tu n'as pas composé et pourtant tu étais en classe.
Ça, c'est parce qu'un professeur veut nous mettre la pression et dire il faut me donner de l'argent.
Il faut passer par moi parce que je suis le maître. C'est en ce moment qu'arrive ce processus de corruption. Ils vont carrément te dire, ben, soit tu es puni, ou soit il faut passer par la corruption, ou soit avoir des parents qui sont un peu bien placés pour pouvoir intervenir et décompter la situation. Il y a les filles qui subissent cette triste réalité où si elles n'acceptent pas l'avance d'un professeur, elles ne vont pas pouvoir continuer les études. Après avoir fini ce film, j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages des dames qui voulaient encore dénoncer, expliquer, témoigner.
Comment la situation des étudiants a pu être touchée, affectée par la crise sécuritaire en République centrafricaine, le conflit ?
Quand il y a la sécurité, il n'y a pas de cours. Il y a eu des moments même pendant qu'on étudiait où on ne devait pas prendre cours parce qu'il y avait des revendications, où il y avait une crise militaro-politique X qui arrive. On ne peut pas étudier. On est habitué dans ça, on vit dans ça. Et on le dit dans le film qu'on veut construire notre pays. Et on veut étudier dans de bonnes conditions. On veut avoir des professeurs, on veut avoir des universités. Il n'y a qu'une seule université publique dans le pays. Sinon, les autres universités privées sont plus chères encore. On veut être dans de meilleures conditions pour pouvoir être aussi à l'aise, construire notre pays comme tous les autres étudiants du monde entier. Parce que, par exemple, on ne peut pas comparer un étudiant qui est en France, même s'il a les difficultés, il est jeune. Il a aussi ses difficultés, sa réalité. Mais au moins, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a l'Internet, alors que ces étudiants n'ont pas l'électricité. On le voit étudier au boulevard, ils profitent des lampadaires pour pouvoir étudier.
Dehors,
carrément. C'est un peu compliqué, mais ils gardent espoir.
On est des amis, mais on ne va pas être hypocrite pour dire qu'on va rester ensemble à vie. Non. On va aller chacun de son côté pour se battre. On restera en contact parce qu'on est des amis.
On est en train de grandir le cinéma centrafricain. Nos films sont juste vus un peu dans des petites projections à Bangui, comme on n'a pas des salles de cinéma. Mais je suis très content qu'aujourd'hui, à travers nos films, qui font beaucoup de voyages à travers le monde, on découvre encore plus la réalité centrafricaine, la culture centrafricaine, qui n'est pas que la guerre.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'Afrique qui gagne ?
Par exemple, dans ma petite réalité, quand je vois des grands films de fiction, je vois comment on fait des plans avec des grues, en l'air. Il y a un plan dans nous étudiants où on voit Nestor en train de lire et je filme depuis sur sa tête. Mais ça, j'étais monté dans un arbre. Alors que réellement, dans le cinéma français par exemple, ce sera une grue, les machines qui vont filmer ça. Mais moi, j'ai monté dans un arbre parce que je n'ai pas ces conditions-là. C'est ça, au fait, cette Afrique qui gagne, qui regarde et puis qui essaie d'oser, de créer aussi à sa manière. Pour moi, c'est cette Afrique qui se réveille. Cette Afrique qui commence à reconnaître qu'on peut prendre des décisions, on ne peut pas juste attendre que tout vienne de l'Occident.
L'Afrique qui gagne, qui ose, qui se réveille, de Rafiki Fariala au micro de Charlie Dupio, des étudiants centrafricains qui subissent la corruption de certains profs, la crise militaire, mais qui gardent malgré tout espoir. Arthur Perrol et Fabrice Rousselot, pour terminer, je vous voyais écouter ce témoignage avec à la fois gravité et respect. Forcément, bien sûr, on ne peut pas les comparer aux étudiants français, hein, ces jeunes centrafricains.
Non. Alors, moi, j'ai envie de dire trois choses. J'ai envie de dire déjà merci, parce que ce sont quand même des voix extraordinaires. D'entendre ça, c'est extraordinaire. Et il y a un terme qu'on n'a pas utilisé jusqu'à présent et qu'on peut utiliser pour les étudiants français et encore beaucoup plus pour les étudiants africains et notamment de Centrafrique, c'est résilience.
Oui.
C'est-à-dire que quand on entend en effet le fait que le seul fait d'aller en cours, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'internet, et puis en plus il faut payer le prof, mais qu'on continue quand même à se battre, qu'on va faire nos légumes dans le jardin parce que comme ça on va pouvoir y arriver, qu'on fait, etc. Il y a quand même une résilience qui est extraordinaire et ça je pense qu'il faut vraiment le mettre en avant. Et encore une fois, merci pour ce genre de documentaire et de commentaires parce que ça fait du bien à la tête.
Exactement, ça fait du bien à la tête. Il y a un autre documentaire qui fait du bien à la tête, c'est Rêve avec un S à la fin, signé Arthur Perrol, chorégraphe et co-réalisateur avec le cinéaste Pascal Catlan, et donc ça sort aujourd'hui même en salle.
C'est ça.
S'il y avait un mot de la fin pour vous, c'est pas résilience, c'est quoi? Continuer à rêver
Je dirais humilité à écouter la jeunesse. Je pense que les réponses, elles sont avec eux.
Et on arrête de leur dire « faites mieux ».
Non.
À écouter davantage. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, belle projection
merci.
Aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en studio, Arthur Perrol. Et merci beaucoup pour cette enquête exclusive The Conversation France, Fabrice Rousselot. Merci.
Merci.
Allez, on se quitte avec le chanteur nigérian, c'est Asake. Lonely at the top sur RFI. Money on my mind,
money. Don't care what they yanning about me in particular. Call me. Out here on the road chasing my dream because I know. Come and chase it for me. Oh la la la, the mango my love. But I got the edition my love. Everyone see like Jack on my love. Need to find anybody na money I want. But they hear what the people they love. Want to get a shakele to love. See love when I want to get another. I go take and do waiting, I love waiting, you love, oh. Maybe waiting, I love, oh. Waiting, I love, I go do what we don't like at all. Go, go, no, be good, God. Mr. Money, ginger. Bound and one of the ways that Mr. Money, ginger. Just carry on, maybe no time. Bad boy, day, me, I day fine. And at the same time, me, I day I. But to the top, most stand out. Calm down, you go get fine. Like fine wine, don't decline. Say goodbye to extraordinary things. You show me love, I go show you more. Obo shenshe, amma yi dante ja shirikele mu fofaye, mu ti fofaye. Lord, I demand my love, but I got the edition, my love. Everyone see like Jack on my love. Need to find anybody the money I want. But they hear what the people they know. Want to get a shack, get a little love. See love when I want to get another one. I go take and do it in a love. Waiting you love, oh.
Asake sur RFI, 8 milliards de voisins et de voisines, c'est fini. Merci à toute l'équipe, Romain Dubrac, Raphaël Plusva et Delphine Cachin. Demain, à la même heure, on va parler des femmes autochtones en Outre-mer. On les connaît peu et pourtant, elles en ont du savoir-faire à transmettre. Du tressage de feuilles en Polynésie à la récolte du sel à Mayotte. Comment s'inspirer des peuples autochtones et notamment de ces femmes pour construire un monde plus durable. On en parle demain avec vous les voisins et les voisines sur RFI. Belle journée à vous d'ici là.
Huit milliards de voisins, c'est fini.